Radio, l'émission sur la Loire et les rivières du bassin de la Loire. Du 15 avril au 15 octobre, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne vous consulte sur les grandes orientations du SDAGE, le document le plus important en matière de gestion des cours d'eau. Chaque mois, SOS Loire Vivante vous informe pour vous permettre de donner votre avis. Ensemble, prenons soin de l'eau. Du 15 avril au 15 octobre, nous sommes tous invités par l'Agence de l'eau à donner notre avis sur le SDAGE. Le SDAGE, c'est le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. En fait, c'est le document le plus important de la politique de l'eau. Le principe, c'est de définir les règles de gestion sur un grand bassin versant applicable sur la Loire, des sources à l'estuaire et sur tous ses affluents. Et le but, c'est d'atteindre le bon état écologique, comme nous demande l'Europe. Ce qui rend important le SDAGE, c'est qu'il va encadrer toutes les politiques publiques qui devront être conformes avec lui. C'est l'Agence de l'eau qui est financée en grande partie par une taxe de notre facture d'eau qui va mettre en place un programme de mesures qui doit permettre d'atteindre le bon état écologique de nos rivières. Monsieur Natural est directeur délégué à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et nous aide à y voir plus clair sur la gestion écologique de l'eau. Alors, Monsieur Natural, pourquoi travaillez-vous au niveau du bassin, des sources à l'estuaire et sur les affluents ?
Ça va de soi. L'eau coule de la source vers l'embouchure et ce qui se passe à l'amont a une incidence sur ce qui se passe à l'aval. Donc c'est pour cela que la gestion par bassin a été mise en place. Pourquoi c'est plus pertinent ? C'est simplement parce que on a besoin de gérer l'eau, pas uniquement suivant un découpage administratif. Notre découpage administratif avec les communes, les départements, les régions, montrait ses limites dans la mesure où on avait une gestion qui était davantage administrative que correspondant à, je dirais, une cohérence des actions, une complémentarité des actions, une synergie des actions sur le territoire hydrographique qui correspond à la cohérence de l'écoulement des eaux. On voit bien, par exemple, que les inondations, elles sont générées à certains points du bassin et elles vont impacter très en aval. D'où la nécessité d'organiser les choses à l'échelon d'un bassin hydrographique. Également, les rejets des grandes agglomérations ou les rejets industriels, ce qui va se passer sur un territoire, eh bien, on va retrouver à l'aval immédiat, mais à l'aval lointain, des conséquences de ce qui se passe sur ces territoires. D'où la nécessité de mettre en place un système de solidarité amont-aval, ou aval-amont également, au travers d'une mutualisation de mobilisation financière pour constituer des budgets, pour pouvoir agir de manière cohérente sur un territoire cohérent.
L'actualité de l'eau aujourd'hui, c'est que l'Agence de l'eau Loire-Bretagne mobilise un budget pour financer le programme de mesures, c'est-à-dire des actions à mettre en œuvre pour atteindre le bon état écologique des eaux. Et en même temps, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est en train d'être révisé et soumis à l'avis des habitants du bassin versant de la Loire lors de la consultation. Monsieur Natural, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu mieux qu'est-ce que c'est que cette consultation ?
Donc, ce projet SDAGE que vient d'être adopté par le comité de bassin, donc maintenant, on rentre dans la dernière ligne droite de la consultation et de l'adoption du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne. Donc, dans cette dernière ligne droite, vous avez deux étapes de consultation. La première, c'est la consultation du public qui va se dérouler du 15 avril au 15 octobre, qui sera ensuite suivi d'une consultation des assemblées. Ensuite, le SDAGE rentrera dans le processus d'adoption et reviendra devant le comité de bassin. Le choix qui a été fait sur Loire-Bretagne, c'est de faire une consultation auprès de toutes les familles du bassin, au travers d'un questionnaire qui va ensuite être mis dans chaque boîte aux lettres. Évidemment, il y aura aussi des points de consultation de ce projet de SDAGE, notamment à l'Agence de l'eau, à la Direction régionale de l'environnement, dans les préfectures, dans les sous-préfectures.
Alors pourquoi c'est important que le citoyen s'implique dans cette révision du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ? Pourquoi c'est important de participer à la politique de l'eau ?
L'eau, c'est tellement un enjeu vital pour une société. Je crois qu'il y avait déjà une raison d'impliquer toujours plus le citoyen dans les enjeux de l'eau. Ce serait celle-là.
La directive cadre européenne sur l'eau demande l'application du principe pollueur-payeur. C'est également ce qu'avaient réclamé les citoyens en 2005, lors de la première consultation nationale. Or, aujourd'hui, nous savons que sur le bassin Loire-Bretagne, l'agriculture produit 90% des pesticides que l'on retrouve dans les rivières, 70% des nitrates et qu'elle consomme 67% de l'eau. Et le secteur agricole ne contribue en revanche qu'à hauteur de 4% au budget de l'agence de l'eau, contre 80% pour les ménages et 15% pour les industries. Serait-il normal de revoir à la hausse la participation du secteur agricole? Celui-ci peut-il et doit-il supporter cette charge? C'est à vous de donner votre avis. Il semble que l'agence de l'eau ne soit pas la seule à financer les actions nécessaires pour atteindre le bon état écologique. Qu'en pensez-vous, monsieur Natural ?
Il est clair que la politique de l'eau est financée notamment par l'agence de l'eau, mais pas exclusivement. La politique de l'eau est une politique assez partenariale. On a l'Europe à travers des contrats de plan État-région, à travers de programmes spécifiques. Il y a les conseils généraux, les conseils régionaux, et puis il y a les maîtres d'ouvrage qui sont sur le terrain et qui vont être à la fois financeurs et qui vont être les opérateurs. La grande majorité des projets sont mis en œuvre de manière décentralisée par les collectivités territoriales, les communes, les villes, les établissements publics de coopération intercommunale, les communautés d'agglomération, les communautés de communes. Ensuite, la politique de l'eau aussi mise en œuvre finalement par les industriels qui sont maîtres d'ouvrage de leurs propres travaux, par les agriculteurs. On a également dans le domaine du partenariat financier, dans le domaine de l'eau, des financements de l'État. Après, c'est la quantité d'euros qu'on va y injecter. Si on augmente la quantité d'euros, on va pouvoir faire plus. Si on réduit ou si on maintient la quantité d'euros, on va continuer à faire les choses à peu près à la même vitesse. Un des principes forts de la politique de l'eau pour atteindre le bon état, c'est de dire, finalement, on a des masses d'eau dégradées. Qu'est-ce qui dégrade ces masses d'eau? Ces masses d'eau, c'est une rivière ou c'est un tronçon de rivière lorsque celles-ci sont trop grandes. C'est un territoire cohérent hydrographique ou une masse d'eau souterraine, un lac ou une nappe souterraine, etc. Donc toute la construction d'usage consiste à dire, voilà là où sont identifiés les problèmes, quelle est la nature du problème et quelle action on va pouvoir mettre en œuvre.
Donc d'après l'agence de l'eau Loire-Bretagne, 500 millions d'euros par an sont nécessaires pour atteindre 45% de masse d'eau en bon état. C'est un chiffre qui est assez difficile à appréhender et ramené à 12 millions d'habitants, ça revient à peu près à 41 euros par habitant. Est-ce que ce chiffre est acceptable? C'est un petit peu la question qui va être posée aux citoyens via le questionnaire qu'ils trouveront dans leur boîte aux lettres. Comment on peut jauger 500 millions d'euros par an? Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup d'après vous, l'agence de l'eau?
L'approche économique est toujours pas simple à faire dans des enjeux comme ça, définition de grande enveloppe de travaux au niveau du bassin. Mais finalement, je crois que ce qu'il faut retenir dans tout cela, c'est d'éviter de faire la division, quoi, en disant chaque usager aura payé une quarantaine d'euros. Parce qu'en fait, tout cela regroupe différentes natures de travaux. Et chacun ne va pas payer 41 euros. Il y aura des pans entiers de l'action qui vont concerner l'agriculture, d'autres qui vont concerner l'industrie, et ensuite d'autres qui vont concerner le citoyen. Donc déjà là, il y a déjà beaucoup de choses ensemble, mais au travers de sa facture d'eau. Le citoyen au travers de sa facture d'eau. L'industrie au niveau de son budget. L'agriculteur au niveau de son budget.
La nature nous rend également des services qui ont une valeur économique. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ?
C'est quelque chose qu'on ne perçoit pas de premier abord comme ça. Lorsqu'on a des rivières qui fonctionnent bien, par exemple des rivières qui sont libres, qui n'ont pas été canalisées, finalement, elles peuvent fonctionner, inonder certaines zones et ne pas inonder des villes ou des secteurs extrêmement sensibles. Donc vous avez un coût évité hein, par un bon fonctionnement naturel. Vous avez... si vous conservez des zones humides dans des têtes de bassin versant, ce sont des éponges. L'été, elles vont pouvoir vous restituer leur eau tranquillement, alors que si vous avez détruit ce système, eh bien, vous n'allez plus avoir d'eau en été. Donc, il faudra que vous fassiez des investissements pour ramener de l'eau là où vous l'auriez naturellement. Vous avez aussi des effets des grandes zones alluviales avec les végétations alluviales de filtration. Vous avez des fixations de d'éléments polluants, donc des rôles d'auto-épuration favorisant l'auto-épuration. Donc quelque part, vous avez des bénéfices. Si vous avez des rivières aussi qui sont de qualité, le bénéfice, ça va être de pouvoir prélever de l'eau dans cette rivière et de presque pas la traiter pour la mettre sur le robinet du consommateur. Donc ça, c'est des coûts évités. Et quelque part, je crois que, outre, je dirais, ce patrimoine de vie de l'ensemble du système aquatique qui fait qu'on a aussi, si on a des plans d'eau complètement pourris, vous n'allez pas avoir toute l'activité qu'il y a autour de l'eau. Vous n'aurez pas de pêcheurs, vous n'aurez pas de promeneurs, vous n'aurez pas tous ces bénéfices qui font aussi que dans un territoire, il y a une vraie économie autour des espaces aquatiques.
Finalement, restaurer le bon état écologique peut dynamiser certains secteurs économiques, comme la pêche ou le tourisme, et nous permettre d'économiser le coût du traitement de l'eau potable. Donc, plutôt que de considérer le coût des actions à mettre en œuvre comme des dépenses, ne serait-il pas plus exact de parler d'investissement?
Il y a une part de charge et une part de retour, je dirais une sorte de neutralisation de cette somme par le bénéfice induit à court, moyen et long terme. Mais en tout cas, on ne peut pas considérer que ce n'est qu'une charge, c'est aussi une chance.
Cette émission vous est présentée tous les mois par SOS Loire Vivante avec le soutien de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Donnez votre avis sur l'usage. Un questionnaire vous sera bientôt envoyé chez vous. Ensemble, prenons soin de l'eau.